car.
Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans l'arrière, on se met ensemble.
Le soir, c'est Couleur Tropicale.
Dire les raisons que nous avons de nous révolter.
Génération consciente.
Seule la lutte libère.
Vous avez commencé par éveiller ma curiosité.
Couleur Tropicale.
Mais là, vous captez mon attention.
Cette émission est une rediffusion.
Couleur Tropicale avec Claudicia.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Léa Pereira Zanuto et toute l'équipe technique du Cenasa. Faites du bruit, bonne arrivée la famille! Ouais. Merci infiniment de nous accueillir au Burkina. Merci infiniment d'être le peuple que vous êtes, qui, sachez-le, inspire bien d'autres peuples, parce que votre histoire est forte, parce que ce que vous offrez de vous, ce que vous offrez de meilleur, eh bien, a un impact aux quatre coins du continent et bien au-delà. Applaudissez-vous. Bienvenue pour une session Génération Consciente. Nous sommes ici dans un lieu tenu par un artiste, et cela depuis quelques années. Et ça fait du bien de savoir que l'on fait confiance à ceux qui, dans leur travail, portent, transportent, proposent une partie importante de nos identités. Je vous demande d'accueillir notre hôte qui va passer ce moment de Génération Consciente avec nous, ZS. ZS, dont nous attendons la nouvelle chanson. Bonne arrivée, ZS.
Merci, Claudie.
Comment ça va?
Chez nous, on dit Niwongo. Ça veut dire, soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous, vous êtes à la maison.
Toi-même, tu sais.
Toi-même, tu sais.
Bon. Parle-nous de ton lieu, de ce lieu où tu es si heureux.
Disons que le théâtre Kwamba Lankwande donc, est une salle polyvalente. Et puis, je suis aux manettes depuis le 25 avril 2016. En tant que directeur général, donc le Cenasa, c'est le Centre National des Arts du Spectacle et de l'Audiovisuel. Les autorités ont estimé que, vu mon parcours, vu mon vécu, j'avais suffisamment d'expérience à partager avec les plus jeunes. C'est ce que j'essaie à ma manière, c'est ce que j'essaie d'accomplir. Et le plus important pour moi, c'est de laisser un outil à la postérité, outil que je n'ai pas eu moi-même quand je commençais ma carrière. Voilà.
En 96, lorsque... C'est 96, Ouaga Sanchar?
Oui, 95-96.
Voilà. Lorsque tu chantais Ouaga Sanchar, est-ce que tu imaginais qu'un jour, tu serais
non,
à la tête d'un bel établissement public?
Pas du tout. Et je crois qu'aujourd'hui, d'avoir réussi à faire cette salle, la salle la plus fréquentée de Ouagadougou, ben c'est que du bonheur.
Ouais. J'ai presque eu envie de faire une petite blague ou un jeu de mots avec l'une de tes chansons.
Directeur voleur, je te vois venir. Non, t'inquiète.
Je ne doute certainement pas de toi, de ton intégrité, évidemment. Est-ce que certains se sont amusés à te faire ce jeu
de mots? Ah oui, ça c'est tous les jours. Et on me voit me dire, mais ZS, c'est facile. Hein. Tu vois, les chansons, ça vous rattrape. Hein. Hier, tu as dit directeur voleur. Aujourd'hui, tu es directeur. On fait comment? Il y en a même qui s'amusent à me dire, mais on va envoyer le contrôle à tes trousses. Mais je suis contrôlé en permanence.
Oui.
Je suis contrôlé en permanence.
Voilà, ça c'est dit. Je voudrais te remercier fraternellement parce que cette salle, ici au Cenasa, reçoit les artistes de la 3e édition des REMA, les Rencontres Musicales Africaines. Et je sais que tu as mis à disposition des artistes d'Alif Naaba et de toute son équipe, eh bien, cet endroit pour qu'ils y soient chez eux et à l'aise. Applaudissements, s'il vous plaît, pour ZS. Pourquoi ?
Je vis un peu ma passion par procuration. Donc, à défaut d'être sur la scène, je crée toutes les conditions, y compris les conditions techniques, pour que mes collègues soient à l'aise. Et puis comme ça, quand eux, ils sont à l'aise, moi, je suis épanoui. Toi-même, tu sais.
Toi-même, tu connais. Et c'est vrai. C'est vrai quand même. Et tu le disais, toi, à ton époque, tu n'as pas bénéficié de tout cela.
Oui.
Et tu sais ce que peut représenter le fait d'être accueilli dans un endroit où les artistes sont chez eux, et quelle que soit leur discipline.
Parce qu'il n'y a pas que la musique ici, hein. Comme je dis, c'est une salle polyvalente, on accueille des pièces de théâtre, on fait des projections cinématographiques, on est quand même à Ouaga, la capitale du Fespaco, du cinéma
Exactement.
Africain. Donc oui, c'est tout ça qui fait que c'est un tel bonheur de diriger un établissement comme ça. Mais je dis aux plus jeunes que vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir un outil comme ça. Parce qu'après la création, qu'est-ce que les artistes demandent ? C'est juste un espace d'expression. Et si je peux leur humblement, modestement leur offrir cet espace-là, en y mettant toute mon énergie, eh bien, j'en suis heureux.
Bon. Si jamais tu es avec nous ici dans Couleur Tropicale, dans cette session Génération Consciente, ce n'est pas parce que tu es le directeur général du CNASA, mais bien parce que tu es un artiste engagé, tu es un citoyen engagé, tu es un panafricaniste au sens le plus constructif du terme, et on souhaitait que tu sois là, l'un des témoins de cette Génération Consciente, de cette libre parole qui va circuler avec toutes celles et tous ceux qui sont ici. On te demandera d'intervenir à certains moments, et puis peut-être que d'autres ici t'interpelleront. D'accord, tu es prêt ?
Que du bonheur.
C'est parti.
Coola, 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 Tropicale.
La libre antenne.
Claudio, il y a le téléphone pour toi. Hein.
33 6 37 42 62 24.
Avant que la parole ne circule, avant qu'elle ne soit libre, je voudrais vous poser deux questions qui me semblent essentielles en ce moment. La première question, qui peut résumer la genèse du panafricanisme ? Comment est né le panafricanisme ? Qui souhaite s'exprimer ?
Je suis Badiel Doris, étudiante en licence 3, finance comptabilité.
Bonne arrivée.
Merci.
Non, non, c'est, je disais au public de dire bonne arrivée, mais apparemment...
Je retire mon masque ou c'est bon ?
Vous pouvez le garder, vous, parce qu'il y a des gens autour de vous, puis il y a okay. Un monsieur juste en dessous.
Ok. Moi, je dirais que le panafricanisme est né, on va dire, après la négriture. Il s'agissait de redorer le blason des Africains et ceux qui se retrouvent, on va dire, métissés.
Pour vous, c'est après le mouvement de la négritude. Initié par Césaire, Senghor et Damas.
Oui.
Où est né le panafricanisme ?
Sur le continent africain.
Sur le continent, d'accord, oui. Ok. On l'applaudit, s'il vous plaît.
Bonsoir à la grande famille de la génération consciente.
Merci, mon frère.
Voilà, il faut dire que l'un des pères fondateurs de ce mouvement-là, du panafricanisme, pour moi, c'est Marcus Garvey.
Donc, jamaïcain.
C'est l'ensemble de ces pays-là, les pays du Caraïbe africain, des personnalités qui étaient là-bas, qui rêvaient de redonner l'identité, la vraie identité africaine, qui se sont mis en synergie d'action pour que l'Afrique retrouve ses vraies origines. Je vais m'en tenir là, mais je crois que Marcus Garvey est important.
Il est très
voilà
important.
Voilà pourquoi il dit « L'histoire de l'Afrique est belle et bien glorieuse. Celle que nous construisons aujourd'hui va étonner le monde d'aujourd'hui et de demain. » Merci.
Merci infiniment. Qui souhaite s'exprimer ? Oui ?
Moi, c'est Kaboré Jean-Marcel, étudiant en Master 2, aménagement du territoire. Et je vais me prononcer un peu sur le panafricanisme. Les Noirs en Amérique, étant fiers d'être Noirs, ont mis en place ce mouvement et a même influencé un peu la création de l'OUA. Pour
très
ceux qui lisent un peu, on voit qu'à un moment donné, il aura une scission au niveau de la création de l'OUA. Il aura la ligne dure avec les Kwame Nkrumah et il aura un peu la ligne moins dure avec les Oufet-Boigny. C'était un peu ce que j'avais à dire.
Merci infiniment. Il y a des éléments de réponse chez chacun d'entre vous. Le panafricanisme est né dans les diasporas. Lorsque je parle de diaspora, je devrais être beaucoup plus juste chez les descendants d'esclaves. Descendants d'esclaves des Amériques, descendants d'esclaves des Caraïbes. Oui, effectivement, probablement que le personnage le plus important de ce mouvement panafricaniste, celui que l'on connaît tel une personnalité iconique, totémique, c'est Marcus Garvey. Le premier congrès panafricaniste a eu lieu en 1900, à Londres. Il a été organisé par un Trinidadien, George Padmore. Et ses descendants d'esclaves, certains étaient métis, eh bien souhaitaient justement, parce qu'ils avaient enfin connaissance de leur histoire, souhaitaient retrouver cette africanité, pas forcément sur un retour en Afrique comme le souhaitait Marcus Garvey, mais définitivement dire « nous sommes des Africains » déportés, enfin nos ancêtres déportés, mais des Africains de la Caraïbe et des Amériques. Et ce mouvement panafricaniste de 1900 a inspiré d'autres panafricanistes, un petit peu plus tard, panafricanistes du continent. N'oublions jamais qu'en 1900, les nations européennes sont encore en train de tenter d'asservir des populations, des peuples qui résistent encore à la colonisation, et en particulier en Afrique de l'Ouest. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'il y a chez certains la volonté de diviser et de ne pas comprendre que le panafricanisme est le fruit, le combat de celles et ceux dont les ancêtres furent déportés et celles et ceux qui aujourd'hui sur le continent veulent une autre vie et entrevoient un autre monde. Alors, effectivement, ce panafricanisme-là s'est renforcé après le mouvement de la négritude. Il y a eu ce grand congrès de septembre 1956 à Paris, avec, alors qui a été baptisé, les intellectuels, artistes et étudiants noirs, et il y avait tout le monde, il y avait même les Américains. Je pense au professeur Dubois, qui, lui, dès la fin du 19e siècle, est déjà dans une dimension, avec Frédéric Douglas, d'une forme d'afrocentrisme. L'afrocentrisme est l'ancêtre du panafricanisme. Je vous dis ça pour que vous compreniez que s'unir pour bâtir, c'est vraiment grandir ensemble. Et que lorsque vous entendrez des personnes parler de panafricanisme, je vous invite aussi à aller chercher vous-même et à comprendre et à savoir, en savoir un petit peu plus. Je ne peux pas tout vous dire là. Eh bien, vous pourrez dire qu'il est important de s'unir et d'arrêter les divisions. Deuxième et dernière question, qui peut me donner la définition de l'expression « nègre de maison » ?
Mon nom, c'est Sadou Rasmane. Je suis étudiant en deuxième année de philo. Moi, je pense que nègre de maison, ce sont les gens, les noirs qui étaient dans les maisons, qui travaillaient pour les blancs. C'est une expression péjorative.
C'est péjoratif.
Oui,
okay.
Oui. En fait, c'est pour vexer les gens. C'est le racisme.
Applaudissements, s'il vous plaît.
Sanou David. Titulaire d'un Master 2 en droit public fondamental et bénévole au programme national de volontariat au Burkina Faso.
Respect.
Pour moi, nègre de maison, c'est une expression péjorative à l'endroit des Noirs qui supportent la suprématie blanche. Les ouais. Noirs qui sont partisans de tout ce que les Blancs font, pour eux c'est bon, même si c'est pas bon, tant qu'ils gagnent quelque chose là-bas. Donc ils sont qualifiés ainsi par leurs semblables.
Donc l'expression vient de la période esclavagiste, puisque oui. Le nègre de maison, c'était celui qui était donc attaché à la maison du maître, oui. Du colon.
Et qui avait plus de faveurs.
Et qui avait plus de faveurs.
Oui, oui.
Bon. Merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît. ZS, je suis désolé, je vais peut-être m'énerver un peu, là.
Vas-y.
Je peux ?
Oui.
Bon.
Lâche-toi.
Vous savez pourquoi les combats que nous menons, une grande partie de ces combats-là sont perdus parce que nous avons du mal à nous respecter. On ne respecte pas la mémoire de nos ancêtres. Oui, l'expression « nègre de maison » vient de l'esclavage. Elle désigne les esclaves qui étaient dans la maison. C'est l'erreur de Malcolm X. Lorsque pour parler des oncles Tom, de ceux qui, justement, ces contemporains, qui ne comprennent pas qu'il faut mener le combat contre cette Amérique ségrégationniste, raciste, ils les appellent nègres de maison. Tous les esclaves étaient des victimes. Il n'y a pas de bons esclaves et de mauvais esclaves. L'espérance de vie d'un esclave sur les plantations, en moyenne, n'excédait pas 7 ans. Toutes les révoltes d'esclaves ont été menées par ceux que l'on appelle les esclaves de maison. Toussaint Louverture n'était pas un esclave des champs. Louis Delgrès, qui le 10 mai 1802, alors qu'il est ancien esclave, mais libre, et qui décide d'aller contre l'ordre de Napoléon, du rétablissement de l'esclavage à la Guadeloupe et en Haïti, il demande à ses soldats, noirs comme lui, de se soulever contre Napoléon Bonaparte. Louis Delgrès n'était pas un esclave des champs, mais quelqu'un qui savait lire. Aux États-Unis, la plus grande des révoltes d'esclaves a été menée par Nat Turner. Nat Turner, nègre de maison, Sojourner Truth, femme qui a réussi à créer des véritables réseaux afin que des esclaves puissent s'échapper. C'était une esclave de maison. Alors je vous exhorte à réfléchir à cela et à comprendre que toutes les victimes de l'esclavage, toutes les victimes africaines doivent être honorées et ne doivent plus jamais être insultées. Leur mémoire ne doit plus jamais être insultée. Il en va de notre devoir. Et puis, sur le continent africain, autre comparaison avant de vous donner la parole, il n'y a aujourd'hui à l'échelle continentale aucune commémoration à la mémoire des millions d'Africains déportés. Aucune commémoration. Comment expliquer cela ? Qui peut imaginer que l'Allemagne rende hommage aux victimes de la Shoah et qu'Israël n'en parle jamais? C'est ce que fait aujourd'hui l'Afrique. Vous savez, lorsqu'en 1993, j'organisais la première marche de commémoration de l'abolition de l'esclavage en France, 1993, 23 avril pour être précis, j'étais persuadé que l'Afrique allait m'emboîter le pas et qu'il allait se passer quelque chose. 1993, 2020, il n'y a toujours rien. Comment ne pas avoir mal en regardant ça et comment ne pas comprendre nos échecs lorsque nous sommes incapables de respecter nos ancêtres. Zadès, si tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on donne la parole.
La transmission de la culture est fondamentale pour la survie des peuples. Donc là, je pense que la jeunesse ici présente en sortira grandie. C'est aussi l'avantage des rencontres comme celle-là que tu viens d'organiser ici au CNASA. Et je t'en remercie sincèrement du fond du cœur.
Merci beaucoup. Allez, qui souhaite s'exprimer et qui a déjà son choix de thème?
Bonsoir à tout le monde, moi c'est Thiema Abdel. Je suis professeur d'EPS de formation pendant plus d'une vingtaine d'années. Maintenant je suis à la musique. Moi j'entends bien souvent, toutes les fois on dit « génération consciente ».
Oui.
Est-elle vraiment une génération consciente? Parce qu'il faut qu'on fasse la différence entre une génération consciente qui a des ambitions, qui a des visions, et une génération en colère, qui, avec l'émotion, balaie souvent certains régimes, et par la suite se retrouve ballotté ça et là par les prochains régimes qui vont venir. Et j'ai un chant, inspiré un peu d'Edith Piaf, qui dit « Politique, tu n'es pas un ange, on te vote pour que ça change. » Toi qui te souviens de moi qui sillonne tout le pays au moment où ça t'arrange. Et une fois bien installé dans tes salons dorés, tu trouves qu'on te dérange. Vraiment, fais vite ton vidange. Poli, poli, politique, sois bien poli. Je vais te polir, te ramollir, afin que tu sois poli. Amen.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai, hein. Merci infiniment pour ce propos. C'est vrai qu'il y a la colère. La colère est parfois mauvaise conseillère, mais la colère peut être rattrapée. En revanche, lorsqu'on cultive la haine, c'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est jamais, jamais une solution. Et elle empoisonne surtout celui qui en fait usage.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir, je m'appelle Ahmed Ouattara.
Bonsoir Ahmed.
Voilà, alors je suis artiste plasticien immobilier et artiviste aussi. Voilà, alors récemment je viens de changer, ou plutôt d'adopter, de prendre le nom de mon arrière-grand-père qui s'appelle Branson Cabra. Et j'explique. La religion que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire l'islam, le christianisme, etc., je ne suis pas contre, ce n'est pas un problème. Mais en fait, je me dis que moi, je trouve beaucoup plus de valeur dans nos réalités africaines, dans les traditions africaines. Il faut rendre hommage à nos ancêtres. Et il y a beaucoup de valeurs dedans qui peuvent nous amener à résoudre nos problèmes et à faire la part des choses. Aujourd'hui, j'ai lancé un concept, résistance artistique. Je travaille avec le recyclage de matériaux, etc., etc., pour faire tout ce que je fais sur le plan mobilier et tout. Et aussi la sensibilisation par rapport à la question du terrorisme, qui est un souci majeur pour le pays, pour le Burkina Faso aujourd'hui, qui est dans une époque complètement difficile. Alors aujourd'hui, à travers l'art, je me dis que les artistes peuvent s'engager, et je suis engagé pour ça. Parce que j'ai appris que mon arrière-grand-père, il était quelqu'un qui rassemblait, qui faisait plein de choses, dont je me suis rebaptisé. J'ai pris mon indépendance et même essayé de m'adapter tout ce qui est autour de moi pour que je puisse respirer valeurs africaines. Voilà.
Alors, j'aurais applaudissements, s'il vous plaît, parce que... Non, c'est pas terminé. Ce n'est pas simple d'évoquer ce type de sujet. Et moi, je suis très heureux d'entendre que c'est apaisé ici, que les uns et les autres écoutent et chacun pourra donner son avis. L'esclavage et la colonisation ont probablement fait de nous ce que nous n'aurions pas été s'il n'y avait pas eu ces épisodes-là. Ça, c'est très clair. Est-ce que l'idée, c'est d'essayer de revenir à un être qu'on aurait pu être ou est-ce que c'est d'accepter ce que nous sommes, d'essayant de se construire autrement avec notre conscience et ce que nous savons de nous-mêmes?
Alors, je veux retenir la phrase de se reconstruire nous-mêmes. Je crois que l'Africain est aujourd'hui hors sol, donc c'est une quête de tous les jours. Par exemple, manger africain, sentir les goûts qu'on avait, l'inculquer à ses enfants, les ramener vraiment dans la barque vraiment authentique des choses afin qu'ils puissent vraiment se prendre en charge. Parce que le problème, c'est ça. Tendre la main constamment,
oui.
Et ce qui amène beaucoup de problèmes.
L'infantilisation des combats.
Exactement.
Merci infiniment.
Merci.
Applaudissements, s'il vous plaît. ZS, comment est-ce que l'on peut transformer les choses, donner une autre vision de ce que nous sommes à travers l'art? C'est ce que tu fais?
Mais c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est l'un de mes succès que tous les Burkinabés, y compris les plus jeunes, en général, quand je fais un concert, je ne chante même pas la chanson. Où allons-nous?
Où allons-nous?
J'essaie de revenir justement sur les questions spirituelles et les questions traditionnelles et dire que, bon, tout ce bling-bling-bling qu'il y a ailleurs, ben, c'est pas forcément mieux que ce qu'on a ici. Que certes, d'ailleurs, je le dis dans une de mes nouvelles compositions, on n'a pas d'infrastructure, mais on nous a transmis une peau du. Donc, pour la petite boutade. Mais tout ça là pour dire que les Burkinabés sont en train de prendre conscience. Il y a beaucoup de labellisations qui sont en train d'être faites.
Ouais. Il y a Burkina.
Le Burkina est en train de revenir en force. Ouais. Là, voilà. Mais évidemment, on ne vit pas en autarcie. Et puis, j'aime bien ce pays parce que, même si on pratique des religions monothéistes venues d'ailleurs, on a trouvé un équilibre. Vous savez, la plupart des chrétiens et des musulmans, quand ils ont l'occasion, ils vont au village pour aller dire bonjour. Oui. Tu suis mon regard, toi-même tu sais.
Exactement.
Couleur tropicale. 00 33 6 37 42 62 24.
La génération consciente en marche, Africa.
Bonne arrivée.
Merci Claudie. Bon, moi c'est Yamego Hubert-Marie Patrick. Autrement connu sous le nom de le pseudo de Esprit Payam, l'homme des balles blanches. La balle blanche, c'est la balle qui ne tue pas.
D'accord.
Au fait, j'entends des jeunes qui se proclament Sankara, Lumumba et Kwame Nkrumah. Et en même temps, je vois ces jeunes-là, ils arrivent au feu, au lieu de respecter le feu, ils vont le griller. Ça, c'est pas Sankara, ça, c'est pas Lumumba. Voilà. Il y a des moments. Je dirais même des grandes-mères qui se lèvent à 3h du matin pour nettoyer cette ville, la Bara la Belle, pour un Ouaga belle. Et quand quelqu'un qui est dans sa voiture, qui fume, qui jette un mégot de cigarette et qui jette des coques d'arachide, c'est de foutaise. C'est une insulte à nos mamans.
Ou qui, ouais. Ou qui colle des chingons, par
exemple. Oui, qui colle des chingons, bien sûr. Ouais. Et moi, j'aimerais dire à cette jeunesse, il faut se mettre ensemble avec les petits moyens qu'on a. Par exemple, moi j'ai 100 000, l'autre, il a 50 000. Et l'autre, peut-être il a 30 000, on se met ensemble, on crée un petit projet. Parce que tout ce qui est petit est appelé à grandir. Mais tout ce qui est grand est appelé à chuter.
Tout le problème est au moment où on se met ensemble pour faire quelque chose. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a la suspicion, on n'a pas confiance.
Ouais.
On préfère parfois avoir confiance en quelqu'un qui vient de l'étranger plutôt que d'avoir confiance en sa propre sœur ou en son propre frère. Et parfois, il y a des raisons de ne pas avoir confiance.
Et comme tu l'as toujours dit,
s'unir
pour bâtir, c'est grandir ensemble.
Exactement.
Et moi, j'ai essayé ça. Actuellement, j'ai mis un projet en place avec 100 000 francs. Et déjà, deux jeunes qui travaillent avec moi. Et je pense que ça va. Ouais. On ne manque pas de nourriture, en tout cas. Merci.
Respect.
Moi, c'est Segda Assetou, dit princesse animatrice d'émission Reggae sur RFM.
Bonne arrivée, merci d'être avec nous.
Merci à vous aussi d'être venu et merci voilà, pour l'émission. Il faut qu'on soit nous-mêmes. On ne peut pas être du faux et vouloir se proclamer en tant que panafricaniste ou une jeunesse consciente. Surtout quand je prends un exemple de nous les femmes. Bon, une femme africaine, par exemple, qui se dépigmente avec des longs mèches, avec des talons, avec des mini-jupes, qui vient par exemple, qui se teinte, d'ailleurs, tu n'es pas toi, tu es faux. Et tu te dis, non, on ne me prend pas au sérieux. Tu n'es pas toi-même d'abord. D'abord, tu es faux. Il faut s'accepter. Il faut accepter nos cultures, il faut accepter nos arts, il faut accepter nos religions, il faut accepter ce que nos ancêtres ont fait pour nous. Nous, on les rejette, on suit la mode et on se proclame africain. C'est quand même gauche. Il faut s'accepter. Il faut savoir d'où tu viens. Sois fier de toi-même. N'aie pas honte de toi. Donc, pour moi, c'est ce que j'aimerais ajouter à tout ce qu'on a dit. Merci beaucoup.
Merci infiniment. C'est vrai qu'il y a cette question-là qui est cruciale. Hein. C'est à quel moment, à cause des épisodes de l'histoire, où l'Afrique a été, il faut bien le dire, vaincue, esclavage, colonisation, néocolonialisme, mais aujourd'hui, une Afrique qui relève la tête avec sa jeunesse, qui n'accepte pas, qui ne veut plus courber les chines. À quel moment les résidus nocifs de ce qui pourrait expliquer nos échecs sont encore présents? Parce que c'est un vrai problème, et dans Couleur Tropicale, on va consacrer une émission justement à cela pour entendre les propos des uns et des autres. Qui souhaite s'exprimer là-bas au fond?
Bonsoir Claudie, bonsoir tout le monde. Je suis Cyril Badeau.
Bonne arrivée Cyril.
Merci Claudie. On entend souvent dire la France n'a que des intérêts. La France ceci, la France cela. Et ce qu'on oublie, c'est que nous avons oublié que nous aussi, nous devons travailler à nos intérêts. Nous sommes tous et toutes en train d'attendre que les choses nous viennent de l'extérieur, d'une autre personne. Je suis le promoteur du Forum africain des femmes leaders. Voilà. Moi, je suis pour la révalorisation, en fait, de la femme qui est mère de l'humanité, mère de la vie, et surtout, comme je le dis, celle et miel de cette humanité-là. Parce que c'est la femme... Parce que c'est grâce à la femme que l'Afrique va s'en sortir. Pourquoi? Vous savez, les femmes en Afrique, dans le temps, étaient respectées. Mais de plus en plus, on a fini par chosifier cette femme-là. De sorte que le fait de l'avoir gardée tout le temps derrière, elle a fini en fait par ne plus avoir confiance en elle. Et lorsque cette femme-là, elle éduque des enfants, et que l'enfant qui naît voit toujours sa mère en train de soupirer parce qu'elle n'a pas le droit à la parole, elle n'a pas l'occasion en fait de pouvoir dire ce qu'elle pense, l'enfant finit par grandir avec un choc émotionnel qui fait que dans sa vie, ouais, parce qu'il a vu sa maman toujours recluse, soumise, il va finir, ouais, par faire quoi? Par ne plus être quelqu'un qui se bat pour ses convictions, mais quelqu'un qui attend un sauveur, un messie. J'ai lancé un programme dénommé Motivation Academy, où nous pensons que nous devons être des acteurs, sinon des créateurs et des créateurs de possibilités. C'est qu'en agissant ainsi, si nous savons que nous sommes des créateurs et créatrices de possibilités, chaque jour quand tu te lèves, tu te diras, moi-même, je ne vais pas attendre que quelqu'un me dise de faire quoi que ce soit de bien pour moi, parce que je sais ce qui est bien pour moi et je dois me battre chaque jour pour pouvoir me réaliser afin de pouvoir sortir cette Afrique-là de l'ornière. Voilà. D'accord. Ce que j'ai envie.
Merci beaucoup. Et juste pour peut-être préciser les choses, si la femme est un soutien pour l'homme, l'homme doit être un soutien pour la femme. Ça me paraît tellement évident, mais en le disant, c'est beaucoup mieux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Je suis Aïchata Baïkro, alias Precious. Je suis artiste assemblagiste. Je milite pour une Afrique verte qui recycle pour mieux vivre. Donc, je suis pour la préservation de l'environnement à travers le recyclage général. Et ma structure s'appelle Décologique. Depuis enfant, on nous a fait un carcan de la beauté qui est loin du teint noir, loin des cheveux frisés. On a grandi avec ça. On essaie de changer de mentalité. Mais il faut dire qu'on n'est pas aidé, parce que tout ce qu'on voit, le visuel et tout, nous ramène à ça. Les hommes africains n'aiment pas les femmes qui sont noires. Et d'autres... Oui, je suis désolée. Hein.
Il y a d'autres qui disent que... Ne soyez pas désolée. Au contraire, allez-y, allez jusqu'au bout. Dites tout.
Voilà, il y a des hommes qui disent, par exemple, que quand tu as une femme qui est noire, quand vous êtes dans le noir, il n'y a pas de lumière, elle ne t'apporte rien. Pourtant...
Vous vous rendez compte, il y a des hommes qui osent dire ça?
Oui.
Attendez, mais moi je suis une femme. Attendez, je suis une femme. Je suis une femme noire, foncée. Un homme me dit ça. Je lui dis, mais même toi, je ne te vois même pas. Qu'est-ce que c'est pas ton problème? On ne se voit pas, mais on s'aime, on se touche.
C'est vrai.
Non, mais c'est lamentable.
On le dit, mais ça frustre. Je ne sais pas, peut-être c'est la néocolonisation qui a engendré ça, la colonisation des esprits.
Complexe.
Oui, le complexe d'infériorité, mais c'est vraiment accentué, c'est vraiment exacerbé, ce problème africain-là. Nous, génération consciente, à notre niveau, on va essayer de changer les choses en espérant que les gens puissent adhérer vraiment à cela. Merci.
Merci infiniment pour cette belle prise de parole. La parole continue à circuler. Je pourrais juste raconter une histoire très rapidement. Dans les années, fin des années 80, en Martinique, il y a une parfumerie qui a essayé de vendre des produits de dépigmentation. Eh bien, des militants sont arrivés. Ils n'ont pas saccagé, ils ont dit ça, c'est terminé, ils ont tout enlevé, ils ont tout pris, ils ont tout jeté. Ce qui fait que vous ne trouverez jamais de produits de dépigmentation, ni en Guadeloupe, ni à la Martinique, ni en Guyane.
Bonsoir Claudie.
Bonsoir.
Bonsoir à tout le public du Sénasa ce soir.
Yépa.
Alors, cette génération, elle est consciente? Elle
oui.
est consciente?
Oui.
Applaudissez pour vous. Mon nom, c'est Donald Tiendré-Bego. Je suis élève en classe de terminale D.
Tu as réussi à te faire applaudir trois fois.
Tu es Merci, Claude. Maintenant, moi, j'ai deux sujets à aborder. Je voudrais qu'on parle du terrorisme. Il y a peu de temps au Burkina Faso, c'est-à-dire en 2015. Maintenant, la question que moi, je voulais poser à tous ceux qui sont là. Vous connaissez très bien le Sahel. Ce n'est que le désert avec des arbres épineux. Comment est-ce que ces gens-là arrivent à se cacher? Et on n'arrive pas à les dénicher. Moi, je pense qu'il y a des gens qui tirent bénéfice. Pendant ce temps, il y a le peuple qui meurt. Les élections sont proches au Burkina Faso. Tout simplement, ce que moi, je demande aux hommes politiques, c'est d'avoir des élections apaisées. Donc, je voudrais la paix dans mon pays. Maintenant, je voudrais vite passer pour le deuxième sujet. J'ai vu récemment sur Facebook qu'on a publié que le stade du 4 août risque de ne pas être retenu pour les éliminatoires de la CAN 2021. Soit disant que le stade ne répond plus aux normes internationales. Comment est-ce que nous pouvons résoudre ce problème-là et permettre à nos étalons d'avoir leur public avec eux? Parce que c'est très important pour remporter des matchs. Donc imaginez que le Burkina Faso... Imaginez que les étalons aillent ailleurs pour jouer. Quel public ils auront? Et je m'arrête là, Claudie. Les autres peuvent réagir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Moi, c'est Kabore Jean-Marcel, étudiant en Master 2 en aménagement du territoire. Je reviens sur la question du frère concernant le terrorisme. C'est une question qui est très complexe parce que ça tire sa source depuis la déstabilisation de la Libye. Mais vous n'êtes pas sans savoir que cette question du terrorisme-là aussi met à nu ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Il y a des gens qui se font des milliards dans ça. Voilà. Et ne voyez pas seulement ceux qui sont dans le désert avec les armes. Derrière, il y a de gros bailleurs de fonds. On a tendance à indexer ceux qui sont de l'autre côté, ce sont les blancs, ceci, c'est cela. Non, c'est nous-mêmes d'abord. Parce que ceux qui tiennent la calache, là, ce n'est pas des blancs, hein. Ce sont nos frères, là.
Merci de le dire, voilà. De le rappeler. Merci.
Donc, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Carole Ngono, Kambo, Rajo. Si on ne se respecte pas, on ne peut pas respecter l'autre. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer l'autre. Alors, aimons-nous. Respectons-nous, formons un point pour construire une Afrique prospère, une Afrique qui n'aura pas de division. Parce qu'en fait, pour mieux régner, il faut diviser. Les autres continents, ils l'ont compris. Alors, il y a trop de richesses en Afrique. Pourquoi ne pas les diviser, les mettre en conflit tout le temps? Et puis, on s'accapare leurs richesses et ils vont rester que des larves. Effectivement, il y a des gens comme vous, et félicitations, en amont, qui font le boulot. Et puis en aval, là, il y en a qui détruisent. C'est ce qu'il faut déjà y penser. Pourquoi moi, je veux qu'on avance et pas derrière un outil vers le bas? Alors retournez-vous et regardez qui vous tire vers le bas et vous coupez le lien. C'est tout ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup.
Bonsoir à tous. Je suis Bernice Pitroapa.
Bienvenue.
Merci. Je suis chanteuse. Et aussi, j'évolue dans la transformation agroalimentaire. Ce que je voudrais dire, c'est ce que nous consommons. C'est très important parce qu'il y a des personnes qui ne vont plus payer les produits qui sont fabriqués localement. Voilà, ils se disent qu'ils ont dépassé ça, en fait. Alors que c'est en consommant local que nous allons améliorer l'économie du pays. Voilà, nous avons des braves femmes qui se battent jour et nuit, qui produisent des choses... qui travaillent, qui offrent des produits. Et nous délaissons ça. Nous préférons ce qui vient d'ailleurs. Pour moi, je pense que le réveil, c'est déjà dans la tête, à la maison, en montrant les valeurs qu'il faut à nos enfants. Et s'ils grandissent avec ces valeurs-là, chacun va impacter son prochain. Et ensemble, maintenant, on va s'élever quoi, comme un arbre et on va porter des fruits. Si ma part de
conscience. Merci beaucoup.
Couleur tropicale. 00 33 6 37 42 62 24.
ZS, on a parlé de culture, on a parlé d'identité, on a parlé de respect, on a parlé du rôle de la femme, on a parlé de terrorisme également. Ce sont des choses qui ont un impact. Je parle du terrorisme, des actions, des actes terroristes qui ont un impact dans le quotidien des Burkinabés. Lorsqu'on est dans le monde, dans la culture, comment est-ce que l'on fait pour résister à tout cela?
Bon, le problème, c'est que quand il y a une situation comme ça, les premiers à payer le prix fort, c'est le monde de la culture de façon générale. Plus que jamais, les artistes ont intérêt à ce qu'il y ait la paix. Je pense qu'au niveau des actes terroristes, quelqu'un l'a un peu suggéré dans son propos, il y a aussi une responsabilité de nous. Pour la petite histoire, il y a quelqu'un qui m'a dit « Bon, voilà, on a encore organisé une marche, quelqu'un que tu connais bien, parce qu'il s'est passé des choses pas très orthodoxes au stade en Guinée, à l'époque, avec les 128 morts. »
28 septembre,
oui. Voilà, ben j'ai dit « Oui, c'est vrai, tu as raison, et tout ça là. » Mais bon, le truc, c'est que moi, dans les gens qui ont commis ces viols, ces crimes et tout ça là, je n'ai vu aucun blond aux yeux bleus là, quoi. Voilà. C'est tout aussi simple. La responsabilité collective passe par la responsabilité individuelle. Oui. Et il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'école pour apprendre à être conscient, pour apprendre à être responsable. Vraiment, j'ai écrit une chanson que tu connais bien, hein, il y a 20 ans, « Quand l'État s'emmerde, chacun se démerde ». Voilà, sur l'album « Accroche-toi ». Il ne faut pas toujours attendre. Moi, je pense qu'il y a nécessité de réfléchir. Et réfléchir, c'est le reçu sur soi. Voilà.
Exactement. Et puis, il a été question tout à l'heure aussi d'unité. Comment est-ce que l'on arrive à être unis, puisque tu parles d'individualité et de l'individualisme et du collectif. Et voilà. Le collectif permet d'avancer.
Mais ce qui est merveilleux, c'est que tous les artistes burkinabés, quelle que soit la forme d'expression artistique, on a tous milité, on a tous fait des chansons, on a tous été aux avant-postes pour la réconciliation nationale, pour la solidarité. Je connais des artistes qui ont organisé des choses pour les réfugiés, etc. Et ça continue. Donc, je crois que les artistes même ont compris la place prépondérante de l'art, de façon générale, dans la stabilité. Moi, j'organise un concert au centre ici, à la fin du mois, le 31 exactement. C'est génial parce que sur la même scène, je réunis un catholique, un protestant et un musulman pour dire que au-delà de ces religions-là, au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui est fondamental et fondamental, c'est le Burkina Faso, c'est le pays, parce que malheureusement, il n'y a pas de Burkina Faso.
Y aura-t-il un artiste athée? Non, ne réponds pas.
On est tous athées.
Ne réponds pas. D'abord.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Voilà, moi je suis Sandy Clavet. Étudiant en première année économie de la santé. Voilà, moi je voulais intervenir sur les idéologies qui se faufilent actuellement dans notre pays. On parle beaucoup plus du panafricanisme, on parle beaucoup plus du sankarisme. Donc ce sont des idéologies qu'on tente à nous expliquer. Mais moi, ce que je voudrais plus appuyer, c'est sur les actes. Le président Compaoré, à l'époque, au cours d'une interview, disait que lui n'était pas pour l'Union africaine. Mais lui proposait qu'on s'attardait sur les réalités du moment. Par exemple, on prend 10 ans pour résoudre la question de l'énergie. Et si ça s'est réglé, la question de la famine. Si tu t'es mis au point, l'institution va venir toute seule. Deuxième point, si vous tournez un peu dans les rues de Ouara, il y a des fossés sales. Devant la maison des gens, il y a des fossés qui sont toutes sales. Il suffisait de nettoyer ça d'abord. Si tout était mis au point, on nettoie ça d'abord. Ça, c'est des actes. Après, l'idéologie va venir seule. On va dire, ah, voilà, c'est un charisme. Il ne suffit pas de... Ouais, donc, c'est ce que je veux dire sur ce premier point-là. Et moi, je voulais contrecarrer un peu mes frères Kamitz. Vous voyez, qui nous dit de rejeter la nouvelle religion, c'est-à-dire l'islam et le christianisme. Mais ils oublient qu'aujourd'hui, nous sommes dans une réalité. C'est la colonisation qui nous a fait ce que nous sommes, et avec le meilleur et avec ce qui n'est pas bon. Vous voyez, pour raison un petit Ken qui disait dans sa sanction, ouvrez les frontières. Il dit que nous avons le droit de sortir pour apprendre ce qui se fait ailleurs. Mais nous devons aussi savoir que c'est nous qui devons construire l'Afrique. Donc, c'est-à-dire, moi je suis d'accord qu'on reparte à la source. voir ce que faisaient nos parents. Mais il y a du vrai dans ce qu'ils nous proposent. S'il y a du vrai dans ce qu'ils nous proposent, il faut prendre et avancer. Comme vous le dites, c'est dans l'union qu'on peut aller loin. Donc, c'était mon apport. Merci.
Merci beaucoup. Alors, je voudrais, je sais que beaucoup souhaitent s'exprimer, mais puisque l'on a évoqué les problématiques d'insalubrité, de soucis au quotidien que rencontrent les Burkinabés, je voudrais que l'on comprenne quel est ce mouvement des volontaires. Qui souhaite s'exprimer ? Voilà.
Oui, je suis Noun Traoré, directeur de la communication et des relations publiques au niveau du programme national de volontariat au Burkina Faso. Il faut dire que la génération concerne, c'est le volontariat. Parce que nos jeunes aujourd'hui sont engagés dans beaucoup de domaines. Nous sommes dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, avec l'arrivée du coronavirus, on a vu les jeunes qui ont attaqué ce mal communautaire-là dans tous les bords, dans les gares routières, dans les centres de santé, dans les lieux de culte, dans les marchés. Les volontaires ont mené un combat ardent à travers des sensibilisations sur les gestes barrières. Aujourd'hui, avec le terrorisme, des enseignants ont déserté des salles de classe. Mais aujourd'hui, c'est nos volontaires qui donnent des cours aux enfants des déplacés internes. Et nos volontaires sont également aux côtés des déplacés internes partout au Burkina pour leur assister en matière dans le domaine de la santé, pour leur apporter des vivres, pour leur apporter des soins, pour leur apprendre, surtout pour les femmes qui se déplacent, à se coudre elles-mêmes des couches réutilisables, des serviettes réutilisables, des serviettes hygiéniques. C'est un projet salutaire que nous apportons tous les jours. Nous sommes dans le domaine de l'environnement aujourd'hui. Nous formons les jeunes à faire des pépinières, à cultiver hors sol. Nous sommes dans l'agriculture également, où aujourd'hui, où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas d'eau, nous arrivons à produire et à faire en sorte que les populations puissent avoir à manger. Nous sommes dans beaucoup de domaines, Claudicia. Et ces volontaires aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une génération qui est vraiment consciente, ces jeunes-là sont venus d'eux-mêmes. Ils ont compris que ce n'est pas Sarkozy, ce n'est pas Claudie, ce n'est pas l'Europe qui va venir construire l'Afrique. Ils ont compris que c'est eux-mêmes qui doivent construire l'Afrique. Mm-hmm. Parce que quand ils viennent, ils sont formés sur les valeurs du civisme, de la citoyenneté, du don de soi. Et aujourd'hui, les problèmes qui sont soulevés aujourd'hui, des caniveaux qui sont bouchés, nos jeunes volontaires sont conscients, ils sont en avance sur le temps, ils débouchent les caniveaux dans leur quartier. Aujourd'hui, les jeunes volontaires font tout dans leur quartier pour que ce pays se développe. Aujourd'hui, notre volontariat est devenu une école parce que des pays de la sous-région viennent voir ce que nous on fait. Le Rwanda est venu faire école chez nous, la Côte d'Ivoire est venu faire école chez nous, le Mali est venu faire école chez nous. Et aujourd'hui, ils ont signé des conventions de partenariat avec nous où nos volontaires partent voir ce que se fait au Mali, en Côte d'Ivoire, où nous recevons des volontaires maliens également chez nous pour un partage d'expérience, pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut construire cette Afrique-là. Voilà grosso modo ce qu'on fait. On a des volontaires qui ont intervenu un peu dans le domaine des déplacés internes. Lui, c'est un volontaire qui était allé dans le cadre de la réciprocité en France. On a aussi en collaboration avec la France aujourd'hui, où on envoie des volontaires qui vont apprendre également ce que les gens font là-bas et qui viennent en tout cas voir si ça peut réussir chez nous. Ils le font. Mais ce qui ne peut pas réussir également, il n'arrive pas à le faire parce que nous tenons compte de notre réalité. On a aussi des volontaires, comme je l'ai dit, qui ont intervenu un peu dans le cadre du coronavirus. Est-ce qu'on peut donner la parole à deux volontaires?
Une personne.
OK.
Allez, il faut choisir.
Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Malvila Hiero, ancien volontaire international des services civiques en France. Voilà, nous pourrons dire que le volontariat, en tout cas, c'est une véritable pépinière de génération consciente. Parce que, bon, moi, j'ai vécu l'expérience, c'est un volontariat international. Donc, en France, j'ai beaucoup appris et ça m'a beaucoup conscientisé d'y donner et de recevoir. Mm-hmm. Voilà, durant mon séjour, ma mission en France, j'ai tout vu et j'ai compris que la France, en Europe, plutôt, ce n'est pas l'Eldorado. On vit mieux ici qu'en France. Donc, ça m'a conscientisé.
Voilà, surtout en ce moment, hein. Le climat est tellement anxiogène, le repli identitaire, le racisme de certains, c'est terrible. Donc oui, on vit mieux ici que là-bas.
J'ai été victime du racisme là-bas, en France, mais j'ai su gérer ça d'une manière africaine. Nous avons des valeurs qui... Voilà, donc on dirait que le volontariat international, en tout cas, c'est une véritable pépinière de génération consciente. Moi, par exemple, moi je suis là, mais je ne vis pas à Ouara comme ça. J'étais à Ouara. Après mon bac, je suis venu à Ouara pour les études. Mais maintenant, après ma mission en France, je suis beaucoup plus au village qu'à Ouara. Parce que j'ai compris beaucoup de choses. Voilà, donc je suis reparti pour entreprendre. Parce qu'avant, moi, je comptais sur la fonction publique. Maintenant, je crois que c'est la fonction publique qui doit compter sur moi pour embaucher.
Oh, bravo! Bravo! Juste peut-être dire que, bah pour moi, c'est ça une nouvelle civilisation. Un autre monde est possible, comme l'a rappé il y a quelques années à Wadi. Un autre monde est possible et vous êtes la preuve, les uns et les autres, qu'un autre monde est possible et vous le construisez au quotidien. Applaudissez, s'il vous plaît, les uns et les autres. Merci beaucoup, Zedes. Merci de nous avoir accueillis au CENASA. Il y a encore énormément d'envie de s'exprimer dans cette salle et on va les retrouver dans une deuxième émission de cette génération consciente. Qu'as-tu envie de dire pour clore ce moment d'échange et de partage, de communion et d'envie de changer le monde ?
Oh, j'ai beaucoup appris moi-même.
Ouais.
Voilà. Et puis, et ça me rassure quand même de voir qu'il y a des jeunes qui, quand même, contre vents et marées, continuent à croire à l'Afrique, quoi. Et que, bon, je ne suis pas un afro-pessimiste du tout, même si je revendique un certain réalisme. Donc, je crois que quand je vois ça, je me dis, bah oui, on a essaimé, on a planté de la graine, et aujourd'hui, le résultat est là. Il y a cette génération consciente-là qui est là, qui n'est peut-être pas la plus nombreuse, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis super content de savoir que le combat, comme tu le dis, le combat continue et bienvenue. Tu seras toujours la bienvenue dans cette salle-là. On va t'accueillir avec toute l'équipe. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Je suis même ému quand je parle. Et merci à vous.
Alors,
merci à vous.
Alors, moi, j'ai une demande quand même à formuler. Est-il possible que l'on termine cette émission avec ta nouvelle chanson ?
Quand ce virus-là est venu là de bizarre, on va dire, à l'époque, on dirait, dans 3 mois, il n'y a plus aucun Africain, quoi. Et moi, j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi, ça ne va pas continuer comme ça. Et j'ai commencé à écrire Résilience africaine. Et l'histoire m'a donné, puisque du coup, on passe de, ils vont tous crever, à comment ils font pour ne pas crever. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, les Africains ne vont pas tous crever. Rassurez-vous, on ne mourra pas par milliers. Vous l'avez déjà pronostiqué, mais on est toujours là, bien calé.
Zedes, merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Les spectacles des REMA. Ce samedi, évidemment, les artistes seront là. Merci d'accompagner Alif Naaba, d'accompagner ce rendez-vous qui est un rendez-vous important, justement, parler d'échanges et de culture et d'identité. Merci infiniment. Applaudissements, s'il vous plaît. C'était la génération consciente en direct de Ouaga.
Là, il a cassé le moteur, c'est fini.